un regard sans haine.
Bientôt, vous goûterez l'amertume de ma haine avec la perte d'un être qui vous est cher.
Otaku Otake, la chronique manga sur Divergence FM.
En fait, otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion, voire un maniaque.
Rock, t'as pas intérêt à me briser les ovaires avec tes conneries de col blanc, d'accord? Tu vois pas que j'ai besoin de me concentrer, là?
Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans la chronique de l'otaku Otake. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série d'animation étrange et intrigante, Stein Gate. À l'origine, Stein Gate est un jeu vidéo, plus exactement un visual novel, c'est-à-dire une sorte de roman vidéoludique, un genre très populaire au Japon. Le jeu, qui a eu un grand succès, est sorti en 2009 et a été développé par 5PB et Nitro+. L'adaptation manga en 3 tomes, écrite et dessinée par Sarashi Yomi, est sortie au Japon en 2009 et était éditée en France par Mana Books depuis 2020. La série d'animation produite par White Fox et comptant 24 épisodes est sortie en 2011. Une deuxième saison de 24 épisodes, intitulée Stein Gate Zero, est produite par les mêmes studios et est sortie en 2018. Cette deuxième saison est une sorte de futur alternatif aux événements développés dans la première. Aujourd'hui, je vais exclusivement vous parler de la saison 1 de l'anime car c'est la seule que j'ai vue et elle donne déjà beaucoup à dire. Du coup, de quoi parle cet animé? Eh bien, l'histoire développe un scénario très complexe autour du voyage dans le temps. Tout commence dans le quartier d'Akihabara à Tokyo en 2010. Nous découvrons Rintaro Okabe, une sorte de savant fou autoproclamé, étrange et paranoïaque. Alors qu'il vient d'assister à une conférence sur le voyage dans le temps, Okabe découvre le cadavre de Kiruchi Mikase, une chercheuse en neurosciences. Il envoie un SMS à ce sujet à son ami Daru et découvre plus tard que Kirisu est vivante et que le message est arrivé avant qu'il ne l'ait envoyé. Okabe et son groupe d'amis amateurs de science se rendent alors compte qu'ils ont transformé par inadvertance leur micro-ondes en dispositif pouvant envoyer des messages textes vers le passé. Ils sont vite rejoints par Kirisu et cherchant à comprendre ce phénomène, ils effectuent différentes expériences concernant le voyage dans le temps. Expériences qui vont déclencher une folle série d'événements. L'histoire déroule un impressionnant scénario à tiroir extrêmement complexe où de nombreuses théories et méthodes de voyage dans le temps sont impliquées. Le déroulement précis des événements est difficile à suivre et reste tout le long de la série un puzzle qui ne cesse de se compliquer. Les différentes pièces de ce casse-tête scénaristique ne se mettent en place que vers la fin de la saison. Dès le premier épisode, il est impossible de comprendre tout ce que l'on voit. Il faut attendre la fin pour comprendre. Mais comme dans tout récit temporel, chaque détail et petits événements a son importance et prendra sens plus tard. La série est construite en deux parties distinctes, autant par leur ambiance et mise en scène que par leur rythme et leur densité. C'est avec l'épisode 12 que l'histoire basculera. La première partie, plutôt légère et lente, ne met en place que quelques petites pièces du puzzle ici et là. Au premier abord, on ne découvre que la vie quotidienne d'Okabe et de son groupe d'amis, qui sont tous plutôt bizarres et étranges. Ils ont des comportements surréalistes. D'autant plus que leur environnement est ancré dans le réel. L'environnement de la série est en effet une représentation très fidèle du quartier d'Akihabara. Malgré sa lenteur et sa maladresse, cette première partie de la saison nous montre beaucoup de choses importantes. Du fait de la complexité du scénario et de l'intrigue temporelle qui accapare toute notre attention, on rate facilement le fond. Je dois avouer qu'il m'a fallu un deuxième visionnage de la saison pour m'en rendre compte. Le comportement exubérant et absurde d'Okabe et de ses amis est en fait une armure. Ce sont juste des personnes fragiles, en perte de repères, effrayées par la réalité et le quotidien, chacun s'étant construit son petit monde étrange et obsessionnel, son personnage, pour s'isoler et se protéger du monde qui l'entoure. Okabe, par exemple, s'invente un personnage de savant fou, exubérant et jovial, qui semble agir comme si rien n'était important et que ses actions n'avaient pas de conséquences, étant en fait incapable de les assumer. Cette première partie donne la possibilité de s'attacher aux personnages et à leur amitié, accentuant le contraste dramatique avec la deuxième partie. Comme je l'ai dit précédemment, la deuxième partie de la saison, beaucoup plus sombre, voire angoissante, avec un rythme très dense, commence vraiment avec l'épisode 12. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas divulgâcher l'intrigue, mais sachez que Okabe va maintenant rentrer dans une course folle et désespérée pour tenter de réparer les problèmes déclenchés par ses étranges expériences. D'autant plus que ce sont surtout ses amis qui ont subi, en subissent ou en subiront les conséquences. Dans un premier temps, Okabe va tout tenter pour ramener les choses au point de départ, ne parvenant qu'à empirer les choses. Le personnage va se rendre compte que ses actes et choix ont parfois des conséquences et qu'il ne peut pas ignorer ou faire disparaître d'un claquement de doigts, même s'il peut voyager dans le temps. Malgré qu'Okabe soit le seul à se souvenir des multiples boucles temporelles et événements qu'il traverse, les autres personnages vont eux aussi changer et sortir de leurs armures, malgré leurs multiples reboots dont ils n'ont aucun souvenir. Pour ce faire, le scénario introduit un fait, certes un peu artificiel ou forcé, mais efficace. Ce fait est que tous les gens impliqués de près avec Okabe vont garder des bribes de souvenirs ou d'émotions de ce qu'ils ont vécu, sous forme de rêves ou de vagues ressentis, qui sont autant d'amorces à leur changement. Le scénario réussit ainsi à contourner un problème inhérent à tous les récits temporels du genre, le fait qu'à cause du reboot perpétuel, la plupart des personnages ne peuvent logiquement pas évoluer. Pour ce qui est de l'animation et de la mise en scène, malgré une première partie un peu longue qui demande de s'accrocher et une deuxième partie réussie mais très classique dans sa réalisation, avec des procédés scénaristiques propres aux récits temporels déjà vus et revus, la série reste intrigante et atypique dans son traitement général. La série est agréable à regarder, l'animation est soignée et les décors et lumières sont beaux. Voilà, malgré sa bizarrerie et ses maladresses, Steins Gate reste une série d'animation qui vaut le coup, surtout si vous aimez les histoires de voyages dans le temps et les intrigues complexes. Je vous parlais de la série d'animation Steins Gate, produite par White Fox et comptant 24 épisodes, sortie en 2011. Bonne fin de semaine, bon visionnage et à la prochaine fois pour une nouvelle chronique de l'Otaku.
En fait, Otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion, voire un maniaque.
Rock, t'as pas intérêt à me briser les ovaires avec tes conneries de col blanc, d'accord? Tu vois pas que j'ai besoin de me concentrer, là? Yeah, yeah, yeah.